Donc je vais faire une petite présentation de la soirée. Donc voilà, Loon Group, tu t'es déjà en partie présenté. Donc tu es enseignant bouddhiste, tu as vécu en Chine, donc, tu as fait la fameuse retraite tibétaine. Donc c'était à Karmaline que tu as fait ton guide de 3 ans, 3 mois, 3 jours, c'est ça? Voilà, et donc tu travailles au service des enseignements du Bouddha. Tu as rédigé beaucoup d'articles, organisé beaucoup de rencontres sur le thème de l'intertradition. Tu as été co-rédacteur des actes du colloque présidé par Edgar Morin, qui avait l'air passionnant, qui s'intitulait « Humanisme et Mindfulness, une éducation pour le 21e siècle ». Donc c'était en 2020, c'est ça ?
2015.
2015, ah oui, 2015. C'était la publication qui était en 2020. Et tu as édité un livre qui s'appelle « Pèlerinage aux sources sur les traces des yogis du Tibet oriental ».
Oui, je l'ai amené aussi.
Ok. Bon, on peut faire...
On peut le faire.
Alors, on t'a sollicité, puis on t'a invité à parler de Bouddha, sur le thème de Bouddha, le grand médecin, point d'interrogation, c'est-à-dire en quoi Bouddha est un grand médecin. Comment ? Peut-être. Quand on parle de Bouddha, on parle du Bouddha, du Bouddha du départ, on pourrait dire, parce qu'après, il y a eu plusieurs Bouddhas, qui s'appelle Siddhartha Gautama, qui a vécu au 5 siècles avant Jésus, à peu près.
Ouais.
Ce jeune homme dont tu vas parler, je pense, qui était le fils d'un roi, et pour diverses raisons, est sorti de son palais assez tardivement et a découvert les malheurs de ses concitoyens, les souffrances, les maladies des gens de son royaume, et donc qui a voulu quitter sa vie luxueuse pour trouver comment soulager, soigner les malheurs des individus. C'est pour ça qu'à l'époque, il était surnommé le grand médecin, voire le roi des médecins. Cet homme qui a trouvé la voie au pied d'un arbre et à côté d'une rivière, il y a toute la poésie que nous cherchons, et sûrement que cette soirée va rejoindre le soin poétique. Je voulais dire un mot sur le bouddhisme et la philosophie pour faire un lien avec les deux soirées qu'on a fait sur Lucerne là en fin d'année. Et parler d'un homme qui est en photo là, je crois qu'on n'en a jamais parlé, pourtant c'était un des premiers à être affiché, qui s'appelle Francisco Varela. Francisco Varela, c'est un neurobiologiste chilien qui a travaillé en sciences cognitives, et notamment il a fait tout un mouvement pour vraiment les réancrer dans le vivant. Et notamment, il a beaucoup travaillé sur le bouddhisme. Enfin, il était lui-même pratiquant. Alors, il avait un élève qui s'appelle Antoine Lutz, et qui est un des chercheurs aujourd'hui connus sur la neuroscience et la méditation. Et Antoine était venu faire une intervention aussi il y a quelques années à l'Ethnocafé. Et Francisco Varela aussi a travaillé le lien entre la méditation et la philosophie phénoménologique. Alors, le lien avec la phénoménologie, on le trouve par Edmond Husserl, qui est un des principaux, on dit que c'est un peu le père de la phénoménologie. Et donc Husserl, j'ai découvert, j'avais un attrait pour le bouddhisme, un attrait pour Husserl, et j'ai découvert assez tard que en fait les deux choses étaient, c'était assez logique d'avoir un attrait pour les deux, parce que les deux étaient assez liés, même très liés, et Husserl en fait était très intéressé par le bouddhisme. Il disait que quand il lisait la vie de Siddhartha Gautama, il ne pouvait plus s'arrêter, il ne pouvait plus s'arracher de la lecture. Il soutenait que la méthode du Bouddha telle qu'il la comprenait était très similaire à la sienne, et que les différentes phases de l'autodiscipline bouddhique étaient essentiellement des phases de réduction phénoménologique, qui est on va pas repartir dans le détail, mais c'est sa méthode phénoménologique. Husserl a écrit un court essai sur Bouddha qui s'appelle sur les discours de Bouddha Gautama. Et du coup, c'est vrai que c'est assez touchant, je trouve, cette convergence d'une philosophie occidentale avec une philosophie orientale, ces points d'achoppement là, qui donnent une impression assez émouvante de qu'on est là face à une vérité, peut-être une vérité universelle. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais Husserl parle beaucoup de la conversion du regard. Il invite à convertir son regard. Comment ? Non, c'est Edmund Husserl. C'est un Edmund Husserl. Voilà, c'est un philosophe qui est mort juste avant la guerre. Voilà. Husserl invite aussi à se rendre disponible au monde, à revenir aux choses mêmes. Je pense que c'est des choses qu'on pourra retrouver dans le bouddhisme. Husserl, il invite à pratiquer l'époké, c'est-à-dire à suspendre son jugement, ses préjugés, se désencombrer pour finalement revenir aux choses telles qu'elles nous apparaissent. Husserl dit que l'objectivité, ça n'existe pas et que ça n'a jamais existé et que ça n'existera jamais. Pour lui, l'objectivité, ce qu'on appelle l'objectivité, c'est une réunion des intersubjectivités. Et peut-être que cette vision-là a trait à ce que Siddhartha Gautama appelle l'interdépendance et la co-création. Voilà. Ce qui nous intéresse là, c'est cette convergence entre la phénoménologie et le bouddhisme. Pour revenir à notre thème, finalement, en quoi tout ça soigne et en quoi la philosophie de Siddhartha Gautama soigne. Et ben, je te laisse la parole. Merci.
Merci Jean, merci. Il y a beaucoup, beaucoup de choses hein, qui rassemblent là, comme un nuage d'oiseaux plein de richesses, de convergences. Donc le titre qu'a suggéré Jean, c'était Bouddha, le grand médecin, avec un point d'interrogation. Et en fait, c'est très intéressant de se retrouver là aujourd'hui entre la phénoménologie, une approche de type médical du Dharma, de l'enseignement du Bouddha. Parce que depuis longtemps, le Dharma, l'enseignement du Bouddha, qu'on appelle le bouddhisme, de façon un petit peu erronée d'une certaine façon, parce que le mot bouddhisme est un néologisme du 19e siècle, inventé par les bouddhologues, et qui fait penser à une sorte d'idéologie ou un isme, qui n'est pas du tout.
Un isme,
c'est comme le socialisme, le communisme, les ismes qui font penser à des structures idéologiques un peu qui tournent sur elles-mêmes, disons. Et elle ne connaît pas le bouddhisme, et qu'on préfère appeler le dharma, c'est-à-dire l'enseignement du Bouddha.
Oui, mais le dharma, ça veut dire l'éveil. Dharma,
aussi.
Non, parce que je connaissais une dame dont la fille s'appelait Dharma.
C'est possible, c'est possible.
Ou bien tu es, je rencontre.
Oui.
Et sa fille, elle s'appelait Dharma.
C'est possible.
Elle m'a dit, je veux dire l'éveil.
Et ce que je voulais dire, oui, c'est que ce qui me frappe, c'est que le Dharma, l'enseignement du Bouddha, a été connu en Occident, on peut dire, depuis les conquêtes d'Alexandre, qui a rencontré des yogis bouddhistes sur les rives du Gange, ou de l'Indus plutôt. Mais après, il y a une longue pénétration avec différents stades, et avec toujours une grande difficulté à situer l'enseignement du Bouddha dans les catégories de la pensée occidentale. Alors, est-ce une religion? Est-ce une spiritualité? Est-ce une science? Est-ce... Et en fait, il y a Et de plus en plus, et grâce beaucoup à l'introduction de la tradition vivante, depuis surtout les années 60-70, venue d'Asie, de toutes les différentes, les trois grandes traditions de l'enseignement du Bouddha sont venues en Occident du fait de la globalisation, on va dire, de la remise en question de la société de consommation dans les années 60-70 par la jeunesse de cette époque, qui sont allés un peu à la recherche d'un nouveau sens, d'un sens plutôt au-delà du matérialisme consumériste, et qui ont rencontré des enseignants bouddhistes aussi bien au Japon que en Thaïlande, au Sri Lanka. Le Japon, c'est le Mahayana, le Zen, le Sri Lanka, les Thaïlandes, c'est plutôt la tradition des anciens, surtout les moines de la forêt, les Theravada, et puis le Tibet, avec les Tibétains qui étaient descendus de l'Himalaya et réfugiés en Népal, en Inde. Et je vois qu'aujourd'hui, d'une certaine façon, cette difficulté à situer le Dharma, l'enseignement du Bouddha, dans notre contexte, trouve une certaine voie de résolution à travers cette rencontre entre l'intelligence phénoménologique, qui est un héritage, un patrimoine de la pensée occidentale, l'intelligence médicale, thérapeutique, et puis l'intelligence, on peut dire, spirituelle du Dharma. Et en effet, on peut tout à fait dire que l'enseignement du Bouddha est beaucoup plus qu'une religion, au sens monothéiste du terme, est une phénoménologie, clairement, et qu'on peut dire aussi, à laquelle il faudrait rajouter, libératrice. C'est-à-dire que, alors je ne suis pas philosophe et je ne connais pas bien la phénoménologie, si ce n'est ce que j'en ai lu autour des convergences avec le Dharma et les livres de Francisco Varela, qui est souvent venu à Karmaling dans sa jeunesse et qui était un élève de Chogyam Trungpa, donc une des grandes figures de l'introduction du Dharma en Occident. Une phénoménologie, je disais, libératrice, parce que le Dharma, l'enseignement du Bouddha, a cette approche phénoménologique qui est fondée sur l'expérience directe, ou l'expérience à la première personne, comme on dit maintenant souvent dans les sciences contemplatives, ou une connaissance qui n'est pas fondée sur des a priori métaphysique, théologique ou idéologique, mais une connaissance qui vient de l'expérience des phénomènes en eux-mêmes, vécus à la première personne, mais libératrice, parce qu'elle propose, de cette expérience est née une méthode pratique qui met en œuvre tous les aspects de la personne, le corps, la parole, ou le souffle, l'énergie, et l'esprit. Donc le corps, la parole et l'esprit, c'est la tripartition qui a un caractère universel. On trouvait ailleurs, hein, cette triade, disons, qui comprend l'ensemble de la personne. Et donc, c'est une phénoménologie associée à une méthode de libération de la souffrance. C'était la libération de la souffrance. En fait, on peut se dire, le Bouddha lui-même, dans une phrase très célèbre, hein, que j'avais envoyée à Jean, dit: mon enseignement n'a qu'une seule saveur, comme l'océan n'a qu'une seule saveur, celle du sel. Mon enseignement n'a qu'une seule saveur, celle de la libération de la souffrance. Donc, c'est-à-dire que tous les enseignements du Bouddha aussi, ce qui est intéressant, c'est que ils ne sont pas spéculatifs. Ils n'ont pas pour but d'élaborer des constructions intellectuelles sur la nature des choses, ou ce qu'elles sont ou ce qu'elles sont pas, ce qui est vrai ou ce qui est faux. Elles ont uniquement toutes les élaborations conceptuelles, philosophiques, aussi sophistiques. L'épistémologie même du dharma, extrêmement sophistiquée et profonde, n'a qu'un seul but, c'est de permettre la libération de la souffrance. Il y a pas un, on dit d'ailleurs que si un enseignement du Bouddha se dirait être l'enseignement du Bouddha, mais n'indiquerait pas la libération de la souffrance, serait en fait une usurpation. Donc ça, c'est le but ultime et prégnant au début, au milieu, à la fin, comme on dit, de la voie. Et donc oui, une phénoménologie libératrice.
Excusez-moi, monsieur, le dharma, ça veut dire l'éveil, mais c'est quoi
en gros?
L'histoire de la vie.
Le dharma, c'est une bonne question. On peut très bien le traduire. Il y a au moins 10 significations du mot dharma, mais on peut dire réalité. C'est l'enseignement du Bouddha, et le dharma qui est l'enseignement de réalité, on peut dire. Réalité au sens de. Et on parle plus de réalité que de vérité. Bon, là aussi, c'est des subtilités de langage, mais qui sont signifiantes. Parce qu'il ne s'agit pas de croire en une vérité, mais plutôt de découvrir la réalité. La réalité avec deux moyens de connaissance valides, qui sont ceux de la tradition du Bouddha, deux moyens de connaissance valides essentiels, qui est un qui est la raison logique, et l'autre qui est l'expérience directe. Donc, juste pour dire que on est très loin d'une approche religieuse au sens monothéiste du terme. Et alors maintenant, Jean est parti sur la vie du Bouddha, avec ce jeune homme, comme tu dis, qui marche sur les rives de la rivière Niranjana, au centre de l'Inde. Et là aussi, bon, c'est intéressant de dire aussi, c'est que nous nous trouvons ici, alors, je ne sais pas dans quel arrondissement de Lyon on est, mais dans le premier, un vendredi soir de 2021, Et on parle de quoi? De qui? On parle de Bouddha, qui est un jeune homme qui a vécu il y a 2500 ans dans les savanes de l'Inde. C'est sans moyen de communication. Donc ça peut-être fait réfléchir quand même. Comment se fait-il que nous nous retrouvions aujourd'hui autour de cette thématique, hein, qui est enseignée par le Bouddha ou les Bouddhas. Alors, et ce que je voulais dire, c'est que donc cet enseignement, ce qu'on a quelque chose d'atemporel, la preuve, c'est qu'on est aujourd'hui ici, transculturel, la preuve, c'est aussi qu'on se retrouve ici, et aussi, on peut dire le Bouddha ou les Bouddhas, hein, parce que c'est pas aussi, il n'y a pas une unicité de une sorte d'exclusivité. Le Bouddha Sakyamuni était le quatrième Bouddha sur les 1000 que la cosmologie bouddhique prophétise pour l'ère cosmique dans laquelle nous sommes, et que même au-delà de ça, il y a autant de Bouddhas, on dit qu'il y en a autant qu'il y a d'atomes dans l'univers. Il y a autant de Bouddhas que d'êtres qui l'ont réalisé. Cet état de libération absolue, totale, on va dire, complète, définitive. Et donc, il y a un polycentrisme, en fait, une sorte de polycentrisme absolu. Et donc pour revenir à ça, oui, donc un jeune homme qui, et comme tu bon évoquais cette vie du Bouddha, je pense que peut-être ça peut être ça donne un peu une saveur de. Et le Bouddha lui-même dit que il n'a pas créé une nouvelle religion. Il n'était pas bouddhiste, évidemment. Non, comment voulez-vous qu'il soit bouddhiste ? Il n'avait pas pensé à ça. Mais il était. Il dit lui-même qu'il a réanimé une tradition ancienne. La tradition des rishis, c'est-à-dire des voyants hein, de l'Inde védique, hein, qui est ceux qui, les détenteurs de la connaissance, en fait, là. Et donc, il a réinitié une tradition immémoriale, qui est la tradition de l'éveil, en fait, la tradition de l'éveil, qui, alors, pour, après, on peut discuter, mais qui s'était un peu perdu hein, dans les institutions brahmaniques, on va dire. Et et alors pour nous aussi, ce qui est intéressant, alors, puisque tu rappelais la vie du Bouddha, c'est que cette vie du Bouddha peut être, elle a été la source de multitude de récits. Elle continue à être aussi la source d'une dévotion qui peut même être ritualisée autour des 12 œuvres du Bouddha qui constituent la trame de sa vie archétypale, on va dire. Mais, et on peut en tirer quelque chose qui est intéressant pour nous du point de vue phénoménologique, poétique, existentiel. Autour de qu'est-ce qui fait qu'à un moment dans sa vie, on se pose des questions fondamentales qui nous font traverser un peu les murs, les conventions de la vie sociale, professionnelle. Qu'est-ce qui fait qu'on se pose des questions fondamentales qui nous amène à entrer dans une aventure, dans une quête, une recherche sur le sens et de la mort, de la vie, de la souffrance, de l'union, de la séparation, etc. Et des questions éternelles. Et le Bouddha, alors pour raconter sa vie aussi, la vie du Bouddha, d'une certaine manière, c'est un peu c'est un mélange de mythe et de réalité, hein, comme c'est un caractère poétique justement. La poésie est une sorte de tissage de mythe et de réalité, hein, de réalité vivante et de mythe imaginaire, enfin. Et on est entendu que l'imaginaire et les mythes sont pas des dans ce qu'on pense que nous partageons des sont pas des comment dire des choses secondaires ou qui c'est au contraire ça, je pense que c'est des dynamiques de l'existence et qui sont structurantes et c'est pour ça que la poétique du soin et joue son rôle aujourd'hui. Il y a toute une ouverture. En fait, le scientisme nous a enfermés dans un carcan et qui fait qu'aujourd'hui, bon, il y a des ouvertures qui se font. Et et ce que je voulais dire, oui, c'est que le Bouddha, la vie du Bouddha est un peu comme une épopée. Qui est celle du héros aux mille et un visages. Vous savez, le héros universel, en fait, celui qui, finalement, l'image de l'être humain qui va relever tous les défis et les grandes questions que se posent des êtres humains, et finalement, avec des exploits extraordinaires, avec des aventures extraordinaire avec ce lit, la magie, le merveilleux, dont ces grandes qui sont le fait des grandes épopées qui structurent l'esprit humain, en fait. Et la vie du Bouddha est à quelque chose comme ça. Et pourtant, elle nous ramène à quelque chose de très proche de nous, parce que qu'est-ce qui se passe? Le Bouddha naît dans une famille dite royale. Elle aurait pu être pas particulièrement royale, mais c'est pas le plus important. Il reçoit une éducation dans tous les domaines, que ce soit les domaines de la langue sacrée, dans la tradition védique ancienne, une éducation artistique, une éducation même martiale, etc. Et donc il est particulièrement doué, on s'en doute. Hein. Et donc il parvient au sommet de chacune de ses disciplines. Ensuite, il est appelé à être l'héritier du trône, puisqu'il est le fils du roi, et donc il est élevé dans cet esprit-là. Il est entouré de toutes les plaisirs et les facilités d'un enfant royal. Appelé à être marié, etc. Et à un moment, il bifurque, comme on dirait aujourd'hui, et il va s'échapper avec son fidèle écuyer, sortir par les portes du palais et aller explorer le monde.
Candide,
oui. Et comme chacun d'entre nous, à un moment ou à un autre dans notre vie, surtout à l'adolescence ou... plus tard, on a envie de sortir de toutes les injonctions parentales, sociétales, etc. De faire une incursion. On aimerait bien découvrir le monde, le vrai. Alors, donc il sort et il va faire quatre rencontres qui sont les rencontres déterminantes qui vont aussi déterminer la suite de l'aventure. Il sort et il rencontre d'abord sur la route un malade. Il se tourne vers son écuyer, dit mais qu'est-ce qu'il a jamais vu, hein, parce qu'on l'a protégé. Hein, on l'a protégé. Et tout ça, c'est beaucoup de sens. Hein. On peut vous protéger, vous surprotéger même. Qu'est-ce qui se passe? Et son écuyer dit mais Seigneur, c'est un homme malade. Oui, parce que les hommes sont sujets à la maladie. Ah, bon, ben continuons. Donc ils continuent leur chemin. Et puis ils rencontrent un cadavre. Mais alors qu'est-ce que c'est que ça? Et son étude lui dit, ben oui, les hommes sont mortels, Seigneur. Ah. Puis il rencontre un vieillard, tout chenu, fatigué, impotent. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais c'est un vieillard, Seigneur. Tous les hommes sont sujets à la vieillesse. Donc Siddhartha sent la gravité qui pénètre son cœur. Il continue et il rencontre un ascète. Semble-t-il, enfin, un homme qui a l'air calme, rayonnant, mais simple, souriant. Il dit, mais qui est cet homme? Et son équipe dit, mais Seigneur, c'est un renonçant, quelqu'un qui s'est consacré à la voie spirituelle. Bon, rentrons au palais. Donc il rentre au palais. Et ces quatre rencontres vont mûrir doucement dans son cœur, dans son esprit, et il va sentir en lui naître la détermination de chercher la voie qui libère les êtres humains de la souffrance. C'est comme ça que c'est dit hein, dans le conte, la légende du Bouddha, en tout cas, et c'est significatif. Et donc, et ce que je trouve intéressant, c'est que je pense que chacun d'entre nous, d'une façon ou d'une autre, fait ses rencontres et de chacun d'entre nous d'une certaine manière va tâcher de sortir du palais, que ça soit un palais mirobolant ou un palais flétri, mais pas sortir des remparts, disons, de de nos conditionnements, hein, de nos injonctions. Et puis ensuite, il va. Après, il faut sortir et c'est pas facile. Et lui, du coup, il va quand même confier à son entourage qu'il va partir. Mais il est quand même, dans la légende, il est quand même obligé de partir la nuit sans le dire à personne, hein, sinon de peur d'être empêché. Et donc, il va partir la nuit accompagné de son fidèle écuyer qui est bien malheureux de voir partir son cher seigneur. Mais il l'accompagne quand même avec son fidèle cheval. Kantaka, cheval magique, et il part la nuit, les gardes n'ont rien vu, et après avoir chevauché toute la nuit, suffisamment loin, il confie son cheval à son écuyer, il coupe sa chevelure royale, il se défait de ses bijoux, de ses vêtements d'apparat, et il part à l'aventure. Dépouillé, chercher à accomplir son but, c'est son nom, hein, Siddhartha, celui qui accomplit son but, c'est-à-dire la recherche de la libération de la souffrance. Et là, il va un peu comme nous, il va rencontrer des maîtres de yoga, le premier maître de yoga, et puis un deuxième maître de yoga, qui vont lui enseigner très profondes pratiques contemplative, auquel, comme il est particulièrement doué, il accède au bout de quelques mois de pratique. On dit qu'il arrive à des hauts degrés de contemplation qui sont ceux de la conscience infinie, l'espace infini, etc. Et les maîtres avec qui il apprend sont tellement impressionnés par sa diligence et ses facilités qui lui disent « Mais Siddhartha, reste avec moi, tu seras mon héritier. » Et il dit « J'ai beaucoup apprécié votre enseignement, maître, mais je dois continuer, je n'ai pas encore trouvé ce que je cherchais. » Et il va continuer, il va entrer dans une ascèse, on pourrait dire des mortifications, au sens où c'est une ascèse extrêmement sévère, avec privation de nourriture, donc avec d'autres ascètes, pendant 6 ans, et jusqu'au moment où il arrive à s'être tellement infligé de mortification qu'il descend à un moment des grottes, hein, de Rajagriha, là, près de cette rivière, dans le Magadha, hein, il descend et ce que dit la légende, hein, et il tombe d'inanition épuisé sur les bords de la rivière. Et là, alors c'est là que Jean m'avait envoyé un petit texte qui raconte comment une jeune femme à ce moment-là, qui amenait des offrandes pour les dieux de la forêt, les esprits de la forêt, le voit agonisant sur les berges de la rivière, et donc s'approche de lui, lui donne à manger les offrandes en question, et du coup il reprend des forces et la remercie, et ensuite elle va devenir une de ses disciples aussi, et c'est comme ça que il va marcher jusque dans la légende jusqu'à un grand arbre sous lequel un figus religiosa, on dit, je crois, je ne sais plus comment dire. Comment on appelle ça en indien ?
Pipala.
Hein ?
De Pipala.
De Pipala, voilà, merci. Et donc il s'assoit sous cet arbre, et c'est là qu'il va pratiquer. Bon, il a pratiqué déjà la méditation depuis longtemps, mais il a compris quelque chose, et du fait de toute sa quête, ses expériences tout au long de la quête, et il s'assoit dans la voie du milieu, dit-on, c'est-à-dire dans l'esprit de... Il a compris que la voie n'était ni dans la complaisance, dans les plaisirs sensoriels, hein, le sensuel, on va dire, ni dans les ascèses mortificatrices, mais qu'elle était au milieu. Mais la voie du milieu va beaucoup plus loin aussi. Hein, c'est, en tout cas, le milieu ni des, le milieu, c'est-à-dire n'est pas une un compromis diplomatique. C'est plutôt de transcender les extrêmes, que ce soit les extrêmes de mortification ou de d'attachement au sens, mais ça va beaucoup plus loin. C'est aussi les extrêmes du nihilisme et de l'éternalisme, du néant, c'est-à-dire que rien n'existe, ou de l'éternaliste, qui serait de croire en des entités qui existeraient en elles-mêmes de façon permanente, entre nihilisme et l'éternalisme, entre toutes les extrêmes conceptuels. Et en fait, au plus profond, la voie du milieu est la voie du non-appui conceptuel, qui échappe ou qui ne repose pas sur aucune référence conceptuelle. Le Madhyamaka, qui est la philosophie centrale hein, de l'enseignement du Bouddha. Et bon, la légende dit qu'après méditant sous cet arbre, il, à la fin d'une nuit étoilée, il réalise tout au, enfin, au cours de cette nuit son expérience capitale, qui est la révélation, on peut dire, de la réalité ultime, qui est l'extinction, ce qu'on appelle le nirvana, mais qui d'une part c'est l'extinction de tous les conditionnements, la dissipation, la purification de tous les conditionnements, de toutes les conditionnements, on peut dire aussi des traces ou des empreintes karmiques hein, qui conditionnent l'esprit. Et d'autre part, en simultané, alors l'image qui est prise dans le nirvana, c'est que c'est l'image d'une lampe à huile qui, dont la flamme se nourrit du combustible hein, qui est l'huile. Et là, l'extinction de la flamme vient de l'épuisement du combustible, le combustible étant les conditionnements du karma. Il n'y a plus de combustible, donc la lampe s'éteint. Mais le paradoxe, c'est qu'en même temps, elle s'allume, parce que c'est l'illumination. Et l'extinction des conditionnements, des empreintes karmiques, des samskaras, etc., est concomitante à l'accomplissement de la nature de l'esprit ou des natures des phénomènes, qui est la claire lumière, qui est donc l'illumination. Donc il réalise cette expérience capitale, fondamentale, et qui est la compréhension de la nature de l'interdépendance de tous les phénomènes, mais la compréhension expérientielle, hein, profonde, de l'interdépendance de tous les phénomènes. Phénomènes intérieurs, extérieurs, etc. Et donc l'interdépendance a beaucoup, 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 beaucoup de sens, énormément d'implications, hein. C'est un mot comme ça, mais... Tous les phénomènes sont interdépendants, donc tous les phénomènes sont vides. C'est Nagarjuna. Tous les phénomènes sont interdépendants, donc tous les phénomènes sont vides. Vides de quoi? Vides d'indépendance. Vides d'entité indépendante, autonome, autosuffisante. C'est pas compliqué, hein. Donc la vacuité n'est pas une chose. Bien que ça soit un gros mot, c'est simplement la réalité de l'interdépendance. Et donc, cette réalisation est une pure merveille, hein, et donc il est libéré. Et donc il va, paraît-il, la légende, jouir de ce bonheur pendant 7 semaines, on dit, en se promenant dans la forêt, sur les bords de la rivière. Et il hésite à aller la partager. Il se dit, personne ne va jamais me comprendre. Personne ne comprendra, ça, ça va être, c'est tellement subtil que bon. Mais on dit qu'à ce moment-là, les dieux l'entendent. Il y a une rumeur comme ça dans le cosmos, et oh, on l'a entendu, et Siddhartha hésite. Oh, merde. Et à ce moment-là, le dieu des dieux, Brahma, descend. Mais non, tu n'y penses pas, Siddhartha. Ça serait criminel de ne pas enseigner. Et même si peu d'êtres t'entendront, il suffira que tu parles, tu exprimes cette réalisation. Et ceux qui l'entendront, même s'ils sont rares, pourront trouver la libération, tout comme une fine pluie qui tombe sur un étang où les lotus sont encore sous l'eau, à fleur d'eau, suffit à les faire s'épanouir au-dessus de l'eau. Vous voyez, à les faire s'épanouir et sortir de l'eau. Donc, bon, convaincu par les dieux, il s'est dit, ok, je vais y aller. Et là, il va marcher jusque de Bodh Gaya jusqu'à Bénarès, à côté de Bénarès, à Sarnath, le temple
c'est
des gazelles.
C'est la plus vieille ville du monde, c'est ça, Bénarès.
C'est possible, oui, possible. Et là, au parc des gazelles, donc qui sont un symbole de douceur aussi, et il va, il avait d'abord pensé à, oui, dans la légende, on dit qu'il a d'abord pensé à ses maîtres de yoga, à qui enseigner. Mais il se renseigne et il apprend que ses maîtres de yoga sont morts. Donc il dit, bon, eh bien, je vais aller voir mes anciens compagnons d'ascèse. Et donc dans la légende, on dit que quand il arrive au parc de Sarnath, les ascètes sont un peu, comment dire, c'est des rudes, hein. Et il voit, quand il voit arriver Siddhartha, hein, ils se disent, non, Siddhartha, il ne faut pas l'accueillir, il a rompu ses vœux. Oh, et Siddhartha marche. Rayonnant, calme. Et donc il le voit approcher, et puis il approche, puis il approche, puis leur colère, leur rudesse se dissipe, et puis finalement il dit, non, Siddhartha, assieds-toi, qu'est-ce que tu as découvert? Et là, il leur fait, alors dans la légende toujours, hein, il leur fait le premier enseignement, qui est l'enseignement du parc des gazelles, et qui va structurer l'ensemble de la voie du Bouddha dans tous ces différents niveaux, hein, tous ces différents. C'est extrêmement riche. Hein, on parle des trois cycles de l'enseignement. Et là, c'est le premier cycle qui néanmoins va structurer tous les cycles. Et c'est l'enseignement sur les quatre nobles réalités, qu'on peut dire, les quatre nobles réalités. Parce que ce ne sont pas des vérités auxquelles il faudrait croire, mais des réalités qu'il s'agit d'explorer dans une approche phénoménologique, justement, d'explorer à la première personne. Et le Bouddha dit lui-même, hein, c'est une phrase célèbre, ne croyez pas en mes paroles simplement parce que c'est moi qui les ai dites, mais examinez-les comme un artisan orfèvre examinerait de l'or qu'on lui proposerait en tant que tel et qui voudrait vérifier si c'est bien de l'or. Donc il va le battre, le chauffer, le gratter pour voir si c'est bien authentique. Donc faites de même avec mes paroles. Et il enseigne les quatre nobles, qui sont connus souvent pour les quatre nobles vérités, mais qu'il est beaucoup plus juste d'appeler les quatre nobles réalités. Qui sont, et là, le Bouddha en grand médecin. On fait une pause?
Ouais.
D'accord.
On va pas trop perturber.
Non, non, mais si tu veux être plus loin. Être libre.
Merci, oui.
C'est super bête de
vous. Merci. 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 Merci beaucoup.
Merci.
Merci. Merci. Merci, ravi d'avoir fait votre connaissance à tous. C'est vous deux pour le rétablissement.
Merci beaucoup. Merci.
Merci. Au revoir.
Allez, merci de vous.
Au revoir.
Au revoir. Si vous voulez vous desserrer ici.
Je ne peux pas s'échauffer.
Ah oui, quelle heure.
Tu me dis s'il faut que je, quand il faut que je m'arrête hein.
Ah bah non mais moi je ça va.
C'est pas le moment.
Si les gens me
s'arrêtent. On est là.
C'est pas le moment. Ah, suspense. Hein. On est à la bêtine.
Voilà. On arrive à l'éveil alors on est ouais. Très très curieux.
Et donc,
quatre nobles réalités.
Quatre nobles réalités, merci. Et c'est là où le Bouddha peut être est comparé au grand médecin. Et l'analogie avec la médecine est très classique et récurrente dans toute la présentation de la voie du Bouddha. Et en particulier parce que le premier enseignement est carrément, tu me diras si je me trompe, mais un paradigme médical classique. Il constate la maladie. Ok, il y a un problème. Ensuite, le diagnostic, c'est-à-dire il cherche les causes, je sais pas si on appelle ça l'étiologie, il cherche la cause de la maladie. Il affirme la réalité de la santé. Il y a bien une santé, sans quoi ça ne serait même pas la peine de chercher à soigner s'il n'y avait pas de santé. À quoi bon soigner les maladies s'il n'y a pas de santé, si la santé... Et ensuite, il propose le remède qui permet de la cessation des causes et la réalisation, le rétablissement de la santé. Donc la première réalité, c'est la réalité de la... On dit de dukkha, alors on la traduit par souffrance. Donc... Et là, c'est aussi intéressant parce que le Bouddha est comme un médecin. On a le médecin, tu me diras si je me trompe, mais ni n'exagère, ni ne minimise. Il essaye d'être réaliste, il ne va pas exagérer disant c'est la catastrophe, ou bon, il n'y a aucune chance et tout ça. Enfin, il ne va pas non plus dire mais non, c'est rien. Il va dire bon, il y a un problème, une maladie qu'il faut traiter. Et donc le Bouddha est pareil, c'est-à-dire il commence pas, c'est aussi intéressant, c'est qu'il va il commence pas par nous proposer des bonheurs célestes indicibles, etc. Il commence par dire la première réalité c'est celle de la souffrance.
Donc le dukkha.
Dukkha. Voilà, dukkha. Et dukkha, c'est aussi un terme intéressant parce que ça a été traduit par souffrance, mais qui peut induire un peu en erreur, dans le sens où ce qui veut dire, c'est que la réalité de la souffrance, qui imprègne tout, la réalité de dukkha, c'est la réalité de... Dukkha peut être traduit par incomplétude, insatisfaction, frustration, déception, mal-être et souffrance aussi, mais c'est le champ de signification est beaucoup plus large. Et dit ben la première réalité, et il commence par quelque chose de très simple que tout le monde peut comprendre, qu'il y a une réalité de la souffrance. Qui pourrait dire qu'il n'y a pas de souffrance dans la vie? Ensuite, il va chercher, donc là, on reviendra après, mais il va énoncer la deuxième réalité, qui est la réalité de la cause de dukkha. Et puis, la troisième réalité, qui est la réalité de la cessation de dukkha, qu'on appelle aussi le nirvana. Et puis, la quatrième réalité, qui est la réalité de la voie qui mène à la cessation de dukkha. Et la première réalité de dukkha doit être reconnue. Et Et c'est déjà beaucoup. Rien que reconnaître, il faut, nous faut souvent beaucoup, beaucoup de temps pour reconnaître un problème. Surtout en psychologie, hein. C'est bien hein, que il faut souvent beaucoup de certain nombre d'étapes pour arriver à reconnaître qu'il y a un problème. Et la reconnaître et l'accepter. Et là, bon, il énonce aussi bon, les différents aspects de dukkha. Il en est. Bon, classiquement, il y a trois grandes modalités de dukkha, on peut dire. Il y a ce qu'on appelle la souffrance de la souffrance, qui est la souffrance physique, psychologique, habituelle, on va dire, de toutes sortes. Mais c'est intéressant l'expression souffrance de la souffrance. Hein, c'est on souffre de souffrir. Et puis le deuxième, c'est la plus grossière, on va dire. Après une un peu plus subtile qui est la souffrance de qu'on appelle du changement, qui est liée au plaisir. C'est-à-dire que nous sommes amenés sans arrêt à être séparés de ce que nous aimons, séparés de ce au quoi nous sommes attachés, séparés de ce qui nous satisfait, séparés de ce que nous désirons, ou alors d'être unis, confrontés à ce que nous n'aimons pas, ce qui nous contrarie, et ça change. Et donc, cette réalité du changement, le plaisir a toujours une fin, nous amène de l'anxiété, du stress, etc. Donc c'est la souffrance du changement, enfin le dukkha du changement, l'impermanence. Et ensuite la troisième, qui est la plus subtile, on va dire, qui est le dukkha existentiel, on peut dire, qu'on dit homme, qui pénètre tout, comme dit l'expression traditionnelle, et qui est le dukkha qui vient du simple fait d'exister en tant qu'individu. C'est-à-dire de se percevoir comme un individu séparé de l'autre, séparé du reste, séparé qui amène l'angoisse existentielle, qui amène le sentiment de manque, le sentiment d'isolation, de sentiment de vulnérabilité. Et qui n'est pas forcément perçu au premier abord. Hein. C'est facile de comprendre la dukkha physique ou psychologique. C'est comprendre facilement aussi qu'on est malheureux quand on perd des êtres chers ou une situation qui nous satisfait, etc. Mais là, c'est un peu plus subtil. C'est la souffrance qui vient de l'attachement à soi. La saisie, enfin littéralement, d'un point de vue plus technique, hein, c'est la saisie d'une entité dans les agrégats de l'individualité, c'est-à-dire l'individualité est analysée dans le dharma au travers des cinq agrégats. Comment faisons-nous pour nous percevoir, concevoir, expérimenter comme une personne individuelle? Ça se comprend à travers, on représente une certaine forme avec des sensations, des perceptions, des formations mentales, la conscience, etc. Il y a une sorte de processus comme ça d'identification à un individu séparé et qui est source de dukkha. Donc ça, c'est la première réalité, la réalité de dukkha, avec ses trois grandes modalités. Et qui doit être, comme dit l'enseignement, reconnue pour ce qu'elle est. Après, après la deuxième réalité, qui est la cause de dukkha. Et la cause de dukkha, il y a deux aspects. Le plus profond, c'est l'ignorance. Alors, vous voyez, l'ignorance, un peu, hein, c'est... On voit combien, même au niveau simplement habituel, hein, comment l'ignorance est la source de tant de malheurs, de tant de bévues, de tant de folies. L'ignorance. Et là, l'ignorance, c'est pas une ignorance d'alphabet ou de la suite des chiffres, hein, c'est l'ignorance de la nature de notre... de la nature de l'esprit, de la nature des choses, de la nature des phénomènes, de la réalité, en fait. On ignore quelle est la vraie réalité, la réalité authentique. C'est l'absence, c'est l'ignorance même, c'est l'ignosance. L'ignorance vient de la gnosis, oui, et alors j'ai vu que l'ethno-café était socratique. Et oui, et tout à fait. Et le Bouddha et Socrate, même combat, hein, connais-toi toi-même pour surmonter l'ignorance. Donc, la première cause de la souffrance est l'ignorance, qui est l'absence de reconnaissance de la nature de notre esprit et de notre... et des phénomènes, et je dis l'esprit aussi parce que c'est comme ça, mais... Et aussi un point important, c'est que dans l'enseignement du Bouddha, ce qui est aussi intéressant par rapport à la souffrance, c'est que il ne va pas par quatre chemins, il va à la racine du problème, qui est notre esprit. Il n'y a pas d'autre cause de la souffrance, en fait, au fond, du fond, du fond, du fond, qui est notre propre esprit. Alors l'esprit n'est pas une entité éthérée, hein. C'est pas un truc abstrait. L'esprit est ce qui anime notre expérience. Ce qui est la base sur laquelle nous vivons les expériences de bonheur ou de souffrance. Si c'était pas notre esprit, ça serait quoi? Ça serait quoi? Alors, après, on peut. Et c'est tout l'enseignement du Bouddha consiste à comme l'a fait aussi les phénoménologues ou les sciences cognitives, est une analyse des constituants de l'esprit et comment ça fonctionne pour pouvoir s'en libérer. Et c'est mais pas dans une approche intellectuelle ou intellectuelle, mais dans une approche expérientielle. C'est-à-dire qu'on peut découvrir notre propre esprit par la pratique de la méditation, à la première personne. C'est ce que Francisco Varela appelle une embodied cognitive science. Embodied, c'est-à-dire une science de l'esprit, mais incorporée. Donc, l'ignorance. Et sur la base de cette ignorance, la deuxième aspect de la cause du mal-être, c'est les émotions conflictuelles, on va dire. Les émotions conflictuelles qui sont, dont la pulsion de base est l'attachement ou l'avidité, la compulsion de possession, qui peut se traduire en... qui peut être en pour ou en contre, c'est-à-dire avec ce qu'on appelle les trois poisons, c'est-à-dire où c'est la compulsion de possession, c'est à moi, je veux ça, ou alors le rejet dans la haine, la colère, la violence, le refus, ou alors dans l'indifférence, c'est-à-dire une sorte d'opacité qui se veut pas concerner, une espèce d'opacité qui est proche de la bêtise, Enfin, qui est une sorte de...
Un déni.
Déni, exactement. Et... exactement. Merci.
C'est sûr.
Ouais. Et le... Et... Donc voilà les causes de la souffrance. Et d'ailleurs, ça fait penser à une phrase qui est belle aussi, qui m'a toujours beaucoup touché, hein, quand on dit que le Bouddha, après, alors j'ai raccourci, hein, dans l'éveil, après, il y a une phrase qui est souvent revenue qui dit « Ignorance, je t'ai vu, je t'ai...
Fréquenté.
Non, dévoilé ou...
Démasqué.
Démasqué, merci, bravo. Démasqué. Et plus jamais tu ne reconstruiras ta maison. Plus jamais les murs de la maison de l'ignorance ne seront reconstruits. C'est écroulé. Donc voilà, il a trouvé les causes. Bon, et après, ça c'est la deuxième réalité, là, et les causes de dukkha. Et ensuite, il va énoncer la réalité de la cessation de dukkha, qui dans notre analogie est la réalité de la santé fondamentale qu'on dit parfois. Qui est une paix non conceptuel. Non conceptuel, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas une paix qui peut être définie dans les catégories de la pensée. C'est une paix, une indicible paix qui se connaît en elle-même, dit-on. C'est l'expression indicible paix qui se connaît en elle-même. Mais qui n'est pas attaché à la paix. Alors parce que là, on va dire après, après il se réfugie dans la paix. Mais non, parce que la véritable réalisation de l'état de Bouddha est qu'il est libre à la fois de la paix et de la souffrance. C'est qu'il n'est même pas même attaché à cette réalisation. Hein. Très important. Et bon, cette réalité est proprement indicible, puisqu'elle échappe aux catégories de l'entendement du langage. Mais néanmoins, elle est une réalité expérientielle, qui peut être dite...
C'est pas l'équanimité, ça.
L'équanimité, enfin, il y a mille qualités, hein, mille qualités. Bon, elle est parfois décrite dans le Vajrayana, elle est décrite comme étant... une ouverture semblable à l'espace, vaste, immense, semblable à l'espace, qui est une ouverture qui n'est pas vide comme un néant, parce qu'elle est remplie de clarté qui est la clarté de la connaissance, on peut dire, clarté de l'intelligence, clarté de la cognition, et de bonté, d'amour, c'est une expérience qui a ces trois qualités qui sont les trois cordes, on dit trois cordes du Bouddha, mais qui sont bien traduits par, autant qu'on peut, par ouverture, clarté et bonté. Voilà. Et doté d'un pouvoir d'éveil, c'est-à-dire pour ça qu'on appelle, c'est Edgar Morin qui avait appelé le Bouddha l'éveillé éveilleur. Qui s'est éveillé, mais dont la force de la compréhension de la réalisation éveille aussi autrui, ceux qui le leur rencontre. Et donc cet état de nirvana, et ensuite la voix, donc c'est là où ça nous concerne, c'est la voix aussi, et la voix c'est le remède. Donc ayant constaté la maladie, trouvé sa cause et établi qu'il est bien une santé, qu'on peut recouvrer, eh bien il propose un remède, et il a dit ça marche pour moi, il n'y a pas de raison que ça ne marche pas pour vous. Mais sachez que, comme tous les remèdes, il ne faut pas le poser sur sa table de nuit en se contenter de lire la notice. Hein. Ça ne soigne pas. Il faut le prendre. Voilà. Et là, bon, en peu de mots, on peut dire que il y a trois, ce qu'on appelle toute la voie peut être résumée à trois entraînements. Donc vous voyez, c'est des entraînements qu'on appelle Shila, Samadhi et Prajna, dans une version en tout cas, c'est la discipline éthique. Samadhi, la pratique de la contemplation, méditation, on aime bien dire pleine présence, plutôt que pleine conscience, mais pleine conscience marche aussi, mais... toute la voie contemplative. Et puis troisième entraînement qui est prajna, qui est la compréhension, la connaissance, l'intelligence, la sagesse. Tout ça, c'est des traductions de prajna. Donc c'est trois entraînements ou trois apprentissages. La discipline éthique, fondée sur une éthique de non-violence, de bienveillance, une éthique altruiste, qui peut se résumer à la règle d'or, ne fais pas autrui ce que tu ne souhaiterais pas qu'on te fasse. Voilà. Après, différents niveaux, la discipline extérieure, discipline intérieure, discipline fondamentale, mais qui est le premier entraînement, en tout cas. Et deuxième entraînement, le samadhi, c'est-à-dire la pratique contemplative, que vous connaissez, je crois que vous pratiquez. Hein, apprendre à... cultiver, développer l'attention, poser son esprit sur une seule chose, stabiliser de façon à remédier à la distraction qui entraîne la confusion, qui entraîne la dispersion, etc. Et puis découvrir la contemplation sans support, comme la contemplation dans l'ouverture des sens aussi, là, on peut dire. Et qui a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stades, énormément de niveaux. Et c'est par la méditation que l'on, on peut dire, se libère les nœuds de la psyché, hein, les nœuds, les nœuds émotionnels, les nœuds, tous les nœuds psychiques, psychologiques, etc. Et puis enfin prajna qui est la connaissance, l'intelligence, qui est la compréhension de la nature des phénomènes, de la nature de l'esprit, de la nature des phénomènes, et qui se comprend dans la compréhension de l'interdépendance. Et après il y a des enseignements sur l'interdépendance, les 12 facteurs interdépendants qu'a aussi présenté Francisco Varela dans une approche un peu je ne sais pas comment dire, cognitivo-scientifique, ou dans l'inscription corporelle de l'esprit, hein, ceux qui s'intéressent à la question, mais dans une approche plus contemporaine, mais tout à fait fidèle à l'enseignement, il faut lire l'inscription corporelle de l'esprit. Et donc prajna, qui est la compréhension de l'interdépendance, mais à la première personne, encore une fois, Et il y a plein de niveaux aussi de niveau de prajna. Et puis il y a une autre façon de présenter ces trois entraînements, qui est plus, là on a Shila, Samadhi, Prajna, il y a une progression, vous voyez, une progression, on commence par l'extérieur en ayant une vie à peu près équilibrée, enfin qui est, où on essaye d'éviter de nuire à soi-même et à autrui. Et c'est un précepte médical, je crois, comment on dit, c'est déjà...
Primum non nocere.
Oui, primum non nocere, voilà. Et puis ensuite, cette relative équilibre nous permet de nous asseoir et rester tranquille pendant déjà 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, un petit peu, comme ça, régulièrement. Donc, pour ce... revenir à la réalité plutôt que de courir et puis je sais pas ce que je voulais dire, qu'est-ce que je voulais dire, comment
Prajna.
Et Prajna qui est plus intérieur et qui est encore plus, qui est le finalement le fruit de la pratique méditative, d'une certaine manière, nous amène à une profondeur d'expérience qui révèle la nature des choses dans la paix ou la stabilité de l'esprit, qui permet à sa clarté de se révéler, et cette clarté de révéler la nature de l'esprit. Et oui, il y a une autre approche qui est plus directe, qui est la, qu'on dit tagomche en tibétain, ou la vue, la méditation et l'action, qui est aussi une façon de parler de ces trois entraînements, mais qui part de la vue, de la compréhension, qui part de la compréhension, d'une sorte d'intuition, de vision de la nature des choses, de laquelle découle la nécessité et la pratique de la méditation, et de laquelle découle une certaine éthique de l'action. Oui, c'est dans les deux sens, on peut le voir dans les deux sens qui sont complémentaires. Donc ça, voilà les quatre nobles réalités de dukkha, de la cause de dukkha, de la cessation de dukkha et de la voie qui mène à la cessation de dukkha. C'est le premier cycle de l'enseignement du Bouddha qu'il a enseigné, dit-on, en tout cas, dans le parc des gazelles, à ses anciens compagnons d'ascèse, qui vont devenir ses premiers disciples. Et ensuite, on dit que le Sangha, la communauté, finalement, va se grandir de jour en jour, au fur et à mesure des pérégrinations du Bouddha, qui va enseigner comme ça jusqu'à l'âge de 80 ans, d'abord dans la région du Magadha, là, au nord... est de l'Inde, et puis ensuite dans toutes les sphères répandues dans toute l'Asie. Puis après, il y a le premier cycle des quatre nobles réalités. Puis il y a le deuxième cycle, on dit qu'ensuite il va enseigner, qui est le cycle sur la Prajna Paramita, c'est-à-dire sur le qui enseigne, qui est un approfondissement sur la vacuité, et qui met en avant aussi la compassion, compassion-vacuité. La voie des bodhisattvas, on dit, qui est un approfondissement de la nature des phénomènes autour de prajna, justement, la prajna paramita, la perfection de la compréhension. Et puis un troisième cycle, qui est l'enseignement sur la nature de Bouddha, c'est-à-dire ou la nature des phénomènes, clair-lumière, sur la nature ultime des phénomènes. On pourrait dire la plénitude de la vacuité. Et qui repose tous sur le premier enseignement des quatre nobles réalités.